Décryptage, Juliette Rangeval.
Bonsoir à tous. Arménie francophone, Arménie francophile, ce petit pays du Caucase en pleine ébullition accueille jusqu'à demain le 17e sommet de la francophonie et pourtant moins d'1% de la population parle français. Ça n'empêche, les Arméniens ici à Erevan ont multiplié les efforts pour accueillir les membres de la famille francophone. Bonjour Elena Gabrielian.
Bonjour Juliette.
Vous êtes journaliste à RFI pour la rédaction russe. Depuis lundi, vous réalisez un quart d'heure d'émission quotidienne sur ce sommet de la francophonie. Alors quand je dis que les Arméniens ont multiplié les efforts pour ce sommet, je parle de tous les Arméniens, du plus anonyme à la tête de l'État.
Oui, parce que le Premier ministre arménien, il a véritablement fait un effort, parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, alors récemment après la révolution de velours, il a commencé à vraiment apprendre le français, parce qu'organiser ce sommet était vraiment prioritaire pour lui. Et il prenait des cours, sa professeure le suivait partout, même pendant les voyages à l'étranger, et pas pendant ses horaires de travail, mais très tôt le matin, une heure et demie, et donc voilà, il est monté sur la scène hier, au village, sur la scène installée au village de la francophonie. Il a remercié pour le diplôme qu'il a reçu de la part de l'Alliance française pour le meilleur élève. Et il a dit, alors je suis reconnaissante parce que j'avais pas de diplôme à l'école de journalisme d'où j'étais virée pour des raisons politiques. Alors c'est mon premier diplôme et je remercie que c'est pour le français.
Tous les efforts de Nicole Pachignan, le Premier ministre, récompensaient les efforts des serveurs de restaurants, également dans le centre-ville d'Erevan. Henrik, qui s'est confié à Anastasia Biekio, il apprend le français, alors il ne le parle pas encore, hein, mais il est très attaché à la France. Est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Ah, vous êtes journaliste à France Arménie, au courrier d'Erevan, également partenaire de l'OIF. On entend hein, les Arméniens, il y a une certaine ferveur pour apprendre le français, il y a un attachement à la France. Il faut dire que la diaspora arménienne, elle est particulièrement importante dans le monde.
Il faut dire qu'elle a essaimé déjà dans la foulée du génocide de 1915. Pour la petite histoire, la France est la première communauté arménienne d'Europe. Il y en a aussi 1 million aux États-Unis, 300 000 au Canada, 1,5 million en Russie. Le pôle historique, c'est le Moyen-Orient, c'est la Syrie, le Liban.
Alors, vous l'avez dit, hein, la communauté arménienne en France, c'est la plus importante d'Europe. Elle est très impliquée, cette diaspora, dans ce qui se passe en Arménie.
Il faut voir qu'il existe deux sortes de diasporas arméniennes en France. La diaspora, on va dire, classique, hein, celle qui est issue du génocide, celle qui s'est assimilée au fil des générations et pour laquelle le principal marqueur identitaire, c'est la mémoire du génocide. À côté de ça, on observe en fait un nouveau phénomène avec l'arrivée des immigrants économiques venus de l'Arménie post-indépendante en 91. Et pour eux, la question de l'appartenance à l'identité arménienne se pose sous un autre angle, un angle, disons, plus concret. L'Arménie, c'est du réel, c'est du concret, c'est pas de la mémoire. Et c'est ça qui fait quelque part qu'il y a une petite divergence avec les autres générations d'Arméniens de France.
Alors, la diaspora arménienne, elle utilise le français, la diaspora arménienne en France, hein, elle utilise le français comme un outil très concret pour agir en Arménie, qu'il s'agisse de la culture, des valeurs ou du commerce. C'est ce qu'Arthur Kandjian, l'adjoint au maire d'Issy-les-Moulineaux, représentant de la communauté arménienne, a expliqué à notre correspondante ici en Arménie, Constance Léon.
Riche et non pas que la culture. Et c'est tout ce qu'elle véhiculait derrière. Le pays des droits de l'homme, le pays des lumières. Voilà tout ce qui sont les moteurs et les vecteurs de cette francophonie et de cette francophilie à laquelle les citoyens d'Arménie, je ne vais pas dire les Arméniens, mais les citoyens d'Arménie sont très 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 attachés.
Est-ce que la langue française, la francophonie, est un outil entre l'Arménie et les diasporas par rapport à l'investissement économique ?
Évidemment. Évidemment, parce que si on peut se permettre de transposer la situation dans une autre dimension, par exemple, les Français d'origine arménienne qui ne maîtrisent pas l'arménien, ce qui n'est pas dur à trouver, même s'il y a énormément d'écoles en France qui donnent évidemment la langue arménienne en cours, et ben c'est la langue française qui est le lien. Ici, les exemples ne manquent pas, où les gens viennent en Arménie pour quelques jours, quelques heures parfois, quelques semaines, ou même parfois pour s'installer, et quand ils ne maîtrisent pas la langue arménienne, et ben c'est par le français qu'ils arrivent à se comprendre.
La diaspora arménienne, donc 3 millions d'Arméniens dans le pays, plus du double à l'extérieur. Bonjour Anastasia Becchio.
Bonjour Juliette.
Anastasia, vous connaissez bien cette région, hein. Vous êtes grand reporter au service international de RFI, vous avez couvert les bouleversements que vit l'Arménie depuis le printemps dernier. Cette diaspora, est-ce qu'elle a joué un rôle dans les événements des derniers mois ?
Oui, elle a organisé des manifestations un peu partout dans le monde. Et puis, on a vu des Arméniens vivant à l'étranger revenir à Erevan au moment des événements pour y participer au printemps dernier. Des gens qui vivent en France, en Italie et beaucoup de Russie sont venus. Depuis le changement de pouvoir, certains sont même revenus travailler au pays. C'est le cas dans plusieurs ministères où travaillent désormais d'anciens membres de la diaspora, par exemple américaine ou européenne.
C'est un pays qui a une situation politique encore instable, qui a connu des manifestations massives en avril, mai dernier, on en a parlé, hein, qui ont abouti à un changement de pouvoir qui n'est pas tout à fait terminé. 5 mois ont passé. Anastasia, où est-ce qu'on en est maintenant ?
Alors, Nicole Pachignan est arrivé au pouvoir sous la pression de la rue. Il est le chef de l'exécutif, mais il n'a pas de majorité au Parlement, ce qui est évidemment un frein important. Ces dernières semaines, il a donc mis la pression pour organiser des élections législatives le plus rapidement possible contre l'avis d'autres partis, en particulier des républicains qui détiennent la majorité au Parlement. Dans la situation actuelle, le moyen de convoquer ces législatives est de démissionner de son poste de Premier ministre. Encore fallait-il s'assurer qu'aucun parti ne présenterait de candidat pour lui succéder, parce que sans candidat à présenter 2 fois d'affilée au vote des députés, cela ouvre automatiquement la porte à des législatives anticipées.
Et est-ce que Nicole Pachignan, le Premier ministre qui s'apprête donc à démissionner, est assuré que cette démission va ouvrir la voie des législatives ?
Lui en est totalement sûr. Il a déjà annoncé qu'il allait démissionner d'ici mardi prochain et que des élections se tiendraient aux alentours du 10 décembre. Il a passé en fait ces derniers jours à négocier avec les partis politique. Le seul à faire véritablement de la résistance, c'est le Parti républicain, parti désormais honni, mais qui a fini par jeter l'éponge. Il faut dire que si les républicains étaient allés au bras de fer, la foule se serait sans doute à nouveau réunie, les gens seraient sortis dans la rue, parce que le soutien dont jouit le Premier ministre est encore très très important ici.
Justement, est-ce qu'on sait quel score pourrait réaliser son parti ? Est-ce qu'il est assuré d'avoir une majorité, Anastasia ?
On sait qu'il a de très bonnes chances d'obtenir une forte majorité, voire une très forte majorité. Il suffit de voir ce qu'ont donné les élections municipales à Erevan le mois dernier. L'alliance soutenue par Nicole Pachignan a raflé 81% des voix et le scénario a bien sûr de fortes chances de se reproduire au plan national, même si le code électoral arménien limite à 70% la proportion de députés appartenant à un seul parti.
Et avec une forte majorité, quelles seront ses priorités ?
Bien sûr, faire des réformes, corriger des lois qui pour certaines avaient été faites sur mesure pour le parti républicain, et puis poursuivre la campagne de lutte contre la corruption. C'est une campagne qui a été lancée depuis plusieurs mois. Il y a eu ici en Arménie une série d'affaires retentissantes qui ont essentiellement visé des membres, des proches du Parti républicain et en particulier l'entourage de Serge Sarkissian, l'ancien Premier ministre, qui a démissionné, on s'en souvient, en avril, sous la pression de la rue.
Anastasia, une dernière question. Comment est-ce que la Russie voit tout ça ?
Au printemps dernier, le mouvement de Nicole Pachignan a bénéficié, on peut le dire, d'une relative bienveillance de la part de Moscou. En tout cas, la Russie ne s'est pas vraiment mêlée de cette affaire comme elle l'a fait, par exemple, on l'a vu, en Ukraine. On a quand même pu percevoir quelques signes d'agacement de la part de la diplomatie russe, quelques signes d'inquiétude après les poursuites pénales lancées contre d'anciens hauts responsables. Mais les Arméniens rétorquent qu'il s'agit de questions purement internes, qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. À son arrivée au pouvoir, Nicole Pachignan a assuré qu'il poursuivrait la politique de bonne entente avec Moscou et que l'Arménie resterait par exemple au sein de l'OTSC, cette alliance militaire conduite par la Russie, alors qu'il avait émis
un point de vue assez différent lorsqu'il était membre de l'opposition. Mais il y a évidemment le principe de réalité. La Russie et l'Arménie ont besoin l'une de l'autre. D'ailleurs, le premier déplacement à l'étranger pour Nicole Pachinian était pour voir Vladimir Poutine en mai. Et depuis, les deux hommes se sont revus trois fois.
Un autre dirigeant que Nicole Pachinian aura beaucoup vu, c'est le dirigeant français, le président Emmanuel Macron. Le chef de l'État est arrivé tard dans la nuit. J'ai posé la question à Valérie Gasse, qui suit Emmanuel Macron pour le service politique, justement sur cette visite qu'effectue actuellement le chef de l'État français.
Oui Juliette, il y a en France une importante diaspora arménienne à Paris, mais aussi à Lyon, à Marseille. Et Charles Aznavour, eh bien, c'était le représentant le plus connu, le plus emblématique de cette communauté. Il devait d'ailleurs faire partie de la délégation du président de la République française à Yerevan. Charles Aznavour, c'était le plus arménien des Français et un grand ambassadeur de la langue française. Il faisait donc très bien le lien entre l'Arménie et la francophonie. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs rappelé dans son hommage aux Invalides il y a quelques jours. Cet hommage qui a été très apprécié ici. Le premier ministre arménien Nicole Pachinian s'y est d'ailleurs exprimé et ce deuil partagé a renforcé le climat de proximité entre les deux pays. Emmanuel Macron a donc tenu en venant en Arménie à conserver le programme prévu avec le chanteur de son vivant en inaugurant la maison Aznavour construite à Yerevan avec le fils de Charles Aznavour qui est présent ici. Il y a eu une volonté du président de la République, en accord bien sûr avec la famille, de maintenir ce lancement comme un signe de fidélité à l'engagement de Charles Aznavour en Arménie. Et puis il y a bien sûr ce grand concert organisé sur la place de la République où un podium a été installé il y a plusieurs jours pour rendre hommage aux chanteurs en présence de nombreux artistes, des chanteurs folkloriques, Angélique Kidjo, Zaz, Mélodie Gardot et Serge Lama qui est venu dans la délégation d'Emmanuel Macron, le président de la République qui bien sûr assiste à ce concert avec son épouse Brigitte qui l'accompagne dans ce déplacement en Arménie. C'est le moment de l'hommage populaire à Charles Aznavour qui était très apprécié ici, surtout depuis qu'il avait aidé le pays au moment du terrible tremblement de terre de Spitak en 1988.
Le décès de Charles Aznavour, Valérie, il donne un relief tout particulier à ce déplacement, mais c'est avant tout pour participer au sommet de la francophonie qu'Emmanuel Macron est en Arménie. Emmanuel Macron qui est arrivé tard dans la nuit sur place.
Oui, cette visite se fait dans le cadre du sommet de la francophonie et le président français attache beaucoup d'importance à la francophonie, au rayonnement de la langue française. Il a d'ailleurs prononcé un discours présenté comme fondateur sur ce thème à l'Académie française à Paris au mois de mars. À l'Élysée, on insiste beaucoup sur l'implication de la France dans l'Organisation internationale de la francophonie, dont le siège est d'ailleurs à Paris. Dans l'ambition de relance du multilatéralisme exposé par Emmanuel Macron à de nombreuses reprises à l'ONU récemment, eh bien l'Organisation internationale de la francophonie, qui réunit 84 États sur tous les continents, elle a un rôle à jouer, un rôle politique et culturel, avec la promotion du multilinguisme. Alors dans cette visite, il n'y a donc pas de volet bilatéral, cela avait été envisagé au départ, avec aussi une visite en Azerbaïdjan dans la foulée, mais cette option a été abandonnée assez rapidement, c'était trop compliqué à organiser. Mais Emmanuel Macron se rendra pour une visite officielle en Arménie et en Azerbaïdjan en 2019, c'est désormais acté. Alors même si aujourd'hui il n'y a pas de volet bilatéral, le président de la République a tout de même commencé sa visite en se rendant au mémorial du génocide arménien. C'est un passage obligé, mais Emmanuel Macron a tenu à ce moment consacré à la mémoire. C'est un thème très cher au président français. D'ailleurs, avant même d'être élu, en avril 2017, Emmanuel Macron avait participé à une commémoration du génocide arménien et prononcé un discours devant le monument qui lui est consacré à Paris.
Dans une Arménie francophile, on l'a compris, cette visite d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle ne risque pas d'être un peu occultée par la crise politique en France ?
Eh bien Juliette, c'est vrai qu'Emmanuel Macron arrive en Arménie alors qu'en France la situation politique n'est pas du tout clarifiée. Le remaniement attendu depuis la démission de Gérard Collomb a pris des allures de feuilleton, un rebondissement. On l'attendait avant le Conseil des ministres de mercredi dernier, puis il n'a pas eu lieu. L'Élysée a envoyé des communiqués successifs pour dire qu'il n'y aurait pas de démission du gouvernement, que le remaniement attendrait le retour du président de la République d'Erevan. Avant de partir de Paris, Emmanuel Macron a tout fait pour montrer qu'il ne se sentait pas sous pression. Ce voyage en Arménie repousse donc un peu plus ses échéances nationales, mais ne les fait pas disparaître. À Erevan, la moindre parole, le moindre signe du chef de l'État vont être attendus, interprétés à l'aune de cette situation d'attente, au détriment peut-être de l'objet du sommet et de la francophonie.
Valérie Gasse, qu'on va retrouver dans notre édition spéciale à partir de 18h15, temps universel. Alors, c'est peut-être parce qu'il y avait toutes ces préoccupations de politique intérieure française. Est-ce que les Arméniens, les attentes des Arméniens sur cette visite d'Emmanuel Macron ont été satisfaites, Elena Gabrielian?
Bon, moi, je pense qu'en fait, les Arméniens, en tout cas, c'est ce qu'on avait vu aussi, entendu de la part de ceux qui observaient en fait son discours. Ils étaient assez touchés par son discours, qui était d'ailleurs très long, 45 minutes à peu près, où il a beaucoup parlé de Charles Aznavour, où il a parlé également de l'histoire entre deux peuples, où la France a ouvert les bras aux Arméniens. Tout ça, ça évidemment touche beaucoup les Arméniens. Et évidemment, c'est ça aussi qui suscite un peu plus cette francophilie chez les Arméniens. Et quand je posais la question à mes interlocuteurs, alors ce que vous attendez de cette de ce sommet après, leurs attentes, c'est que en termes de dans le domaine de la culture, qu'on passe à cette période, ce qu'ils disaient, post-Aznavour, c'est-à-dire qu'on trouve des nouveaux symboles, des en termes de développement culturel, faire venir plus de l'art contemporain qu'on connaît moins par rapport à l'art classique, par exemple. On sait qu'il y avait un volet économique qui était aussi très important, qui est beaucoup plus d'investisseurs français qui viendraient en Arménie. Donc volet culturel et économique, sans oublier évidemment linguistique, parce que cette francophilie évidemment doit de plus en plus se transformer en francophonie. Et les chefs d'État nous ont prouvé leur amour pour la langue française, et on découvre aussi les étudiants, les jeunes étudiants qui apprennent de plus en plus.
Tigrane Yegavian, vous aussi, vous avez l'impression que toutes ces attentes sont satisfaites aujourd'hui?
Il y a eu un temps pour l'émotion, on l'a vu avec la séquence du président Macron, et aussi un temps pour rappeler la violence du réel et la géopolitique de la région, puisque la Turquie exerce toujours son blocus terrestre sur l'Arménie, l'Azerbaïdjan continue d'agresser quotidiennement les frontières de l'Arménie, mais aussi le Haut-Karabakh, et il y a un message de la part de la diplomatie arménienne, c'est le message, c'est le vivre ensemble, c'est le slogan de l'OIF qui n'a pas été perçu de la même manière côté francophone, mais côté arménien. Le vivre ensemble, ça veut dire nous voulons vivre en paix avec nos voisins. Ce n'est pas un lieu commun, c'est quelque chose de très concret.
Merci beaucoup Tigrane Yegavian également à Anastasia Becchio. Il paraît qu'on a eu beaucoup de soucis techniques pendant cette émission. J'en suis désolée. J'espère qu'on pourra réécouter cette émission avec un son meilleur sur le site internet, sans doute sur rfi.fr. C'est là qu'on le retrouvera. Merci également à vous, Elena Gabrielian. On vous retrouve tous les jours jusqu'à demain sur l'antenne FM de Erevan.
Tout à fait, 102.4 FM à Erevan. On diffuse à Erevan depuis 1995 en français tous les jours, en russe, et depuis 8 octobre jusqu'au 12 en arménien pendant 15 minutes.
Pendant 15 minutes. Et vous m'avez dit que vous aviez une affiche à votre image juste à côté de la maison de votre grand-père.
De mon arrière-grand-père.
Ça me touche beaucoup. Ici à Erevan. Merci à l'équipe technique de RFI qui a réalisé ce décryptage. Benoît Raymond, Boris Vichit, Philippe Nadel, ici à Erevan, avec donc des soucis techniques. À la rédaction en chef, Jean-Pierre Monza. Merci à Anastasia Becchio qui était là pour le service international de Radio France Internationale. Tout à fait. Et on se retrouve à partir de 18h15, temps universel, pour une émission spéciale sur RFI avec nos invités. On parlera beaucoup du sommet de la francophonie côté africain avec Christophe Boisbouvier. Le fil de la journée sur ce sommet de la francophonie ici dans les hauteurs de Erevan. Il y aura aussi beaucoup de politique, puisque Emmanuel Macron a passé donc toute la journée ici. On retrouvera Valérie Gasse en direct. On parlera également du concert qui se tient actuellement dans le centre de la ville.